chaque mardi, un des membres de la section de Montpellier, la Ligue des droits de l'homme, vient nous parler eh bien, d'un dossier, d'une action, d'une campagne. Et aujourd'hui, c'est Patrice Rigaud qui est avec nous. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Alors tu es avec nous pour la suite de ton étude sur la révolution arabe, mais particulièrement sur les élections tunisiennes. Il faut savoir que les 26 et 27 novembre se tenait la 17e université d'automne de la Ligue des droits de l'homme sur le thème « Les soulèvements dans le monde arabe et l'avancée des droits », université à laquelle tu as participé.
Oui, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de tracas, parce que c'était assez difficile à suivre, mais c'était très intéressant, passionnant.
Alors, ces élections en Tunisie, on voit bien que ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment, puisque le vote populaire semble se tourner vers des partis qui ne sont pas vraiment laïcs, on va dire ça comme ça, et ça suscite des inquiétudes certaines ou certaines inquiétudes.
Oui, une espèce de balancier. On a parlé d'un printemps arabe et on y voyait tout de suite l'arrivée de la démocratie et puis un formidable changement. Et puis on parle maintenant d'un automne islamiste et on y voit les choses les plus noires qui se profilent. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En réalité, premièrement, les élections. Donc l'élection du 23 octobre a marqué en Tunisie une formidable avancée de la démocratie. Parce qu'après des années et des années de dictature, il y a eu une élection qui s'est déroulée d'une façon tout à fait remarquable, dans le calme, dans l'ordre, avec très très peu de violence, avec très peu de trucage également. On peut dire qu'il y a eu une très forte participation, même si elle n'a pas été celle qu'on disait et qu'on imaginait en voyant les foules. Oui. Mais il y a eu une forte participation, plus de 60% du potentiel électoral, ce qui est quand même remarquable. Et puis, il y a eu une organisation indépendante du gouvernement précédent qui s'est mise en place assez rapidement, somme toute, et qui a organisé ces élections et les a très bien organisées. Donc le résultat est là et il est parfaitement démocratique. Alors, que les islamistes aient remporté ces élections, ça n'aurait pas dû nous étonner. En fait, il y a eu, et on a discuté de là-dessus à l'université, il y a eu une véritable myopie des Occidentaux. Les Occidentaux n'ont vu que les jeunes manifestants, les Twitter, ils n'ont vu que la révolution qui allait tout changer. Il fallait bien savoir que le peuple tunisien, comme d'autres peuples arabes, est un peuple fondamentalement conservateur, qu'il y a là une présence de l'islam qui est très importante, même si les islamistes ne se sont pas montrés dans la rue au moment des manifestations de janvier-février, ils étaient là et c'est eux qui représentent le plus le peuple.
Oui, d'autant que sous la dictature, on se rend compte que dans certains pays, sous la dictature, ces religions ont été un petit peu gardées sous coupe. Et puis finalement, c'est aussi les communautés religieuses qui ont pallié aux premières nécessités, qui ont parfois assuré des soins, assuré de l'éducation, etc. Donc c'est un petit peu comme si, en temps d'occupation en France, le secours catholique serait intervenu pour aider les gens et qu'on soit surpris qu'après ce soit des partis démocrates chrétiens qui viennent pouvoir. Somme toute, si on regarde la situation avant la révolution, le résultat électoral ne peut pas être surprenant finalement.
C'est vrai. Et la comparaison est assez bonne. Seulement, il faut voir une lecture un peu différente de ces élections. Si 40%, un peu plus de 40% des gens ont voté pour Ennahda, ça veut dire qu'il y en a quand même à peine moins de 60% qui ont voté pour autre chose. Et donc, il y a d'autres forces qui sont présentes. La Tunisie a profondément changé. Alors, quelles sont ces autres forces? Il y a bien sûr, assez surprenant, le parti populiste, qui a fait à peu près 20% des voix, qui a 26 sièges à l'Assemblée. Le parti populiste qui vient de l'extérieur, d'une certaine façon, puisque son leader, Le Hashmi Hamdi a complètement dirigé la campagne depuis Londres, avec des milliards derrière lui et une télévision qui diffusait en Tunisie 24 heures sur 24. Et c'est pas très étonnant non plus donc qu'avec des moyens pareils, ce parti populiste ait fait autant de voix et, il va peser d'une certaine manière sur l'Assemblée constituante. Mais derrière, et d'une façon un peu plus sympathique pour nous occidentaux, il y a Etakatol, le parti de Ben Jaffar, qui a fait quand même une très belle percée, puisqu'il a, 20 sièges, la gauche démocratique a 20 sièges à l'Assemblée. Et devant, il y avait aussi le Congrès pour la République de Marzouki, qui a eu 29 sièges à l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est que ce parti, le Congrès pour la République? C'est un centre-gauche nationaliste, on peut dire. On a reproché à Marzouki d'avoir fait alliance avec Ennahda, mais il est quand même très indépendant et il l'a prouvé dans son opposition farouche au régime de Ben Ali. Marzouki, qui vient d'être élu aujourd'hui président de la République, c'est l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme de Tunisie. C'est un opposant historique. C'est un homme de 61 ans qui a beaucoup de poids, qui va certainement marquer par sa présence les changements de la Tunisie. Et puis donc, le président des Etakatol, le docteur Ben Jaffar, c'est aussi une sacrée personnalité. Et ce qui fait dire que il vient d'être élu, lui, Ben Jaffar a été élu président de l'Assemblée constituante. Et c'est pas rien comme poste.
Donc tout compte fait, finalement, la constitution de cette Assemblée, en tout cas pour la Tunisie, finalement, c'est plutôt encourageant, on va dire.
Ben oui, même si le poids des islamistes est incontestable, puisqu'ils ont tenu le Premier ministre et qu'ils vont diriger le gouvernement. Mais c'est un trio, en fait, qui dirige le pays, et c'est un trio qui semble se respecter. Les uns et les autres vont jouer de tout leur poids pour assurer la rédaction de cette constitution et assurer les acquis de la démocratie, si je puis dire. Bon, la Tunisie, donc, semble en pointe dans ces révolutions arabes, incontestablement.
Oui, parce que ce qui est valable pour la Tunisie n'est pas nécessairement sur les autres pays.
C'est pas forcément valable pour les autres pays, notamment pour l'Égypte, où en Égypte, le poids des frères musulmans est beaucoup plus important, ou le poids des salafistes aussi. Qu'on peut dire une extrême droite islamiste est beaucoup plus important aussi. Et donc, c'est peut-être un peu plus inquiétant. Mais néanmoins, dans ces révolutions arabes, ce qu'il faut voir, c'est deux choses, à mon avis. C'est le poids des jeunes. C'est extraordinaire. L'importance de la jeunesse dans les manifestations, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux technologies modernes, les jeunes sont présents et sont partout. Et ces jeunes, eh ben, ils vont être là pour longtemps. Un peu comme chez nous, ceux qui ont fait 68, eh ben, ils ont été là longtemps. Et la génération des 68ards, elle arrive à la retraite, mais elle est là. Et elle a pesé sur la société française. Eh ben, c'est cette génération des révolutions arabes, elle va rester là et pour longtemps. Elle se souviendra de ce qu'elle a fait. Et puis d'autre part, il y a le poids des femmes. Alors, les femmes, on dit qu'elles sont conservatrices jusqu'à un certain point. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est l'évolution de la transition démographique. C'est le fait qu'en Tunisie, actuellement, la transition démographique est achevée, c'est-à-dire que les femmes ont, en moyenne, 2 enfants, pas plus. Et quand je pense qu'il y a 40 ans, c'était 6 ou 7 enfants, il y a là une évolution extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles maîtrisent leur corps, elles maîtrisent leur compagnon, et elles en discutent avec lui. Et le poids de l'islam, finalement, dans ce domaine-là, n'est pas très fort. Parce qu'en fait, les islamistes, eux, sont complètement opposés à la contraception et à toutes sortes de choses de ce genre. Et la réalité, elle est là.
Donc il y a la voix des urnes d'un côté, puis finalement il y a la société elle-même, pour les deux raisons que tu viens juste d'évoquer, on va dire qu'ils sont toutes les deux un peu démographiques, que ce soit les jeunes qui sont là et qui ont encore une bonne 60aine d'années devant eux pour voir les fruits de cette révolution, et puis les femmes qui ont toujours la tête sur les épaules et peut-être aussi un pouvoir, on va dire, discrétionnaire plus important qu'on peut se l'imaginer.
Absolument.
Comme dans toutes les sociétés,
comme
finalement.
Dans toutes les sociétés. La femme est l'avenir de l'homme. Mais il y a autre chose, alors. Il faut voir aussi que il y a quand même la revendication sociale. La question sociale, elle va se poser parce que les gens en ont marre de la pauvreté. Les gens, et, comme partout, les gens en ont marre de la corruption. Ils ont vu ce que c'était. Et la première des choses qu'ils revendiquent, c'est la fin de tout cela. Et un peu plus d'honnêteté dans la politique et le fait que la richesse soit un peu mieux partagée.
Donc, j'imagine qu'on se recroisera pour continuer à aborder c'est l'évolution des choses en Tunisie.
Mais bien volontiers.
Puisque là, nous allons faire une pause de 4 semaines dans nos rendez-vous pour des questions de congés, d'une part, mais aussi de travaux qui ne s'entendent jamais à l'antenne, mais que nous devons entreprendre au tout début de ce mois de janvier. Patrice Rigaud, merci. Et puis, je rappelle que sur le site de Divergence, on peut retrouver des liens vers les choses concernant notamment cette université d'automne de la LDH sur les soulèvements dans le monde arabe et l'avancée des droits. Et donc, à très bientôt. On va écouter un titre qui tombe un petit peu d'actualité, c'est un poème d'amour égyptien par DJ Shadow.
If I go walking, you are there with me, everywhere, with every step. My hand is in your hand.